Le Magéco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce magazine Echo chaque mercredi, émission en partenariat avec le Journal des entreprises représenté par Olivier Amar. Bonjour Olivier.
Bonjour Bastien.
On démarre avec votre invité de la semaine, Stéphane Courgeon, le président de Mats Digital.
Oui, qui a créé la société Mats Digital il y a quelques années. C'est une société qui assure l'intégration, la mise en place dans les entreprises de casques à réalité virtuelle ou à réalité augmentée. Bonjour Stéphane Courgeon.
Bonjour.
Alors Mats Digital, c'est né d'un constat que vous avez fait il y a quelques années, l'arrivée de casques à réalité virtuelle et leur potentielle utilisation dans les entreprises. Expliquez-nous comment c'est né cette idée d'entreprise.
Tout à fait. En fait, je travaillais pour un éditeur de logiciels de réalité virtuelle à ce moment-là, il y a quelques années. Et ces systèmes de réalité virtuelle étaient vendus surtout pour des entreprises type Renault, PSA, Airbus ou autres. Et c'était des systèmes de réalité virtuelle en fait, qui pouvaient coûter entre 500 000 euros et voire 3 à 4 millions d'euros pour les plus gros systèmes. Et puis tout d'un coup est arrivé en fait sur le marché en 2017 des casques de réalité virtuelle que tout le monde achetait en fait à ce moment-là chez Boulanger, à la Fnac. Et tout d'un coup on passait d'un système effectivement de 500 000 euros ou 1 million d'euros à un système à 450 euros. Et donc là c'est une vraie révolution, c'est une vraie rupture dans un modèle économique. Et la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est d'accord, ces casques vont entrer dans les entreprises, après rentrer dans les foyers français ou autres, et de se dire, mais quelle est la part de service professionnel qui est aujourd'hui développée pour ces clients-là, pour les entreprises? Et en fait, le constat, c'était qu'il n'y avait absolument rien. Rien n'existait, en fait, pour les entreprises. Et c'est là où l'idée m'est venue de me dire, en fait, pourquoi pas, en fait, reprendre des services qui existent déjà, qui ont déjà été développés, en fait, pour d'autres marchés, comme la téléphonie, par exemple, et de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire un copier-coller ou dupliquer ces services professionnels qui ont été développés depuis une trentaine d'années vers ce nouveau marché-là et ensuite atteindre les entreprises.
Alors, expliquez-nous tout d'abord une différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée en quelques mots.
C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on peut effectivement avoir quelques interrogations par rapport à ça. La réalité virtuelle, surtout que c'est un marché qui bouge extrêmement vite. La réalité virtuelle, vous imaginez en fait un casque que vous mettez sur votre visage, qui est complètement opaque. Vous êtes dans le noir et tout d'un coup, il va s'allumer et vous êtes projeté dans un monde virtuel. D'accord ? C'est-à-dire que vous quittez complètement le monde réel pour aller dans un monde virtuel avec deux technologies, 3 degrés de liberté, 6 degrés de liberté. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire 3 degrés de liberté, vous êtes statique, vous êtes assis ou debout et vous pouvez tourner à 360 degrés autour de vous. D'accord ? Deuxième technologie, la 6 degrés de liberté, permet en fait de pouvoir marcher dans une pièce, dans une scène de réalité virtuelle, et le monde autour de vous interagit par rapport à votre position dans l'espace. On pourra revenir dessus sur des exemples si vous souhaitez. La réalité augmentée, c'est différent. On est plus proche en fait de lunettes qui vont agir comme, vous savez, en fait, ces petites plaques de plastique qu'il y a dans les voitures qui vous permettent d'afficher des informations complémentaires sur votre navigation. Voilà. C'est ça la réalité augmentée. C'est en fait, vous allez pouvoir mettre des lunettes, aller en intervention dans une entreprise et vous allez pouvoir voir ces informations qui vont s'incruster sur vos verres.
Stéphane Courgeon, on parle beaucoup des casques de réalité virtuelle dans l'univers du jeu, mais quels usages on peut en faire dans divers mondes professionnels?
Oui, il y a énormément d'exemples, je vous en donner quelques-uns. Un exemple qui est très facile en fait pour se projeter, c'est apprendre par exemple à lutter contre un feu, contre un incendie. Mais vous allez prendre en fait, vous avez un casque de réalité virtuelle, vous allez prendre un extincteur virtuel et vous allez éteindre en fait un feu virtuel.
C'est de la simulation en fait.
C'est de la simulation, oui, ça vous permet justement d'éviter les accidents, d'éviter de mettre un vrai feu en route, d'éviter de sortir un vrai extincteur pour aller éteindre ce vrai feu et donc de mettre les gens en danger. Un autre exemple, vous savez, vous comprendre aussi, c'est que par exemple, c'était le cas il y a quelques années, une entreprise en fait qui a une centrale nucléaire qui a besoin en fait de former des techniciens pour aller faire de la maintenance dans des cuves de réacteurs. Ils vont pas les envoyer tous les jours pour se former parce qu'effectivement le risque industriel est très fort, très important. Donc on va les former le plus possible en amont pour que leur intervention dure le moins longtemps possible effectivement dans les milieux exposés.
Mais ce sera dans des conditions quasiment similaires. Quoi.
Exactement, okay. Des conditions tout à fait similaires.
Ça veut dire que la réalité virtuelle en entreprise aujourd'hui, on l'utilise principalement pour la formation?
C'est beaucoup pour la formation, c'est tout à fait vrai. Formation, ça peut être ensuite sur la formation sur le risque, la gestion du risque. Je vais me promener par exemple pour éviter les risques de chute de hauteur, chute de plein pied. Je vais apprendre aussi à me promener dans un entrepôt pour éviter de cogner quelque part ou d'avoir un accident. C'est les risques électriques, par exemple. Et puis, pour aller plus loin dans la partie recherche et développement chez les constructeurs automobiles ou auto ou avions ou autres, en fait, là, on est sur de la revue de projet, revue de maquette, ergonomie, design, etc. On va aller très, très loin dans ces possibilités-là. C'est pour ça que dans le catalogue, en fait, on a des produits qui vont de 250 euros à plus de 10 000 euros pièce en fonction des besoins de chaque, alors soit personne, soit scénario également de formation.
Qu'on comprenne bien, Mads Digital, vous mettez en lien l'entreprise qui va être votre cliente avec, ou votre client, avec l'éditeur qui va lui créer une solution pour la réalité virtuelle, c'est ça, hein ?
Alors, en fait, on est plutôt parti dans le sens inverse, c'est-à-dire on a d'abord travaillé avec les éditeurs qui développaient ces solutions-là, et qui avait besoin en fait d'avoir un partenaire qui soit capable de déployer ces solutions dans les entreprises avec ses services professionnels. Je donnais un exemple, j'ai le droit d'en parler parce que c'est officiel. On a travaillé avec un éditeur qui s'appelle Immersive Factory par exemple, qui travaille sur les risques dans les entreprises. Et ils avaient en fait comme client Suez, comme vous connaissez. Et le besoin de Suez, c'était de déployer 120 casques dans 40 pays dans le monde. Voilà. Donc ils se sont dit, nous éditeurs, on n'a pas la capacité de le faire, on n'a pas les mètres carrés, on n'a pas les techniciens, on n'a pas les ressources pour pouvoir le faire. Et si on ne s'allie pas avec une structure comme Adigital, c'est un projet qu'on ne pourra pas faire. Enfin. Et il y a aussi porté financièrement aussi ce projet-là, parce que ça veut dire acheter 120 casques et puis ensuite avoir des techniciens capables de pouvoir les programmer. Donc c'est comme ça qu'on a signé en fait un contrat tripartite à la fois avec l'éditeur et le client pour pouvoir déployer cela.
Alors vous les avez les moyens de faire ça, mais vous les avez parce que vous êtes aussi adossé à une entreprise qui s'appelle Itantia, qui est une grosse entreprise des Mauges, hein, la Jubaudière. C'est un partenariat, enfin, vous êtes adossé à cette entreprise, hein, vous n'êtes pas une filiale d'Itantia.
Exactement, exactement. En fait, j'ai travaillé pour ce groupe-là, Itantia, il y a quelques années, en tant que vice-président vente et marketing. Et donc, je connais très bien, enfin, on se connaît très bien avec le propriétaire, patron de ce groupe-là, qui s'appelle Yann Pinault. Et donc, quand j'ai eu l'idée de créer ce projet, cette entreprise-là, il y a quelques années, en fait, je me suis naturellement tourné vers lui en me disant, toi, Yann, avec Itantia, vous avez le savoir-faire depuis 30 ans sur les services professionnels pour les entreprises. Moi, je t'amène effectivement cette compétence que j'ai développée par ailleurs après notre travail ensemble. J'ai travaillé effectivement plusieurs années chez un éditeur de logiciels de réalité virtuelle. Je vois effectivement un marché émerger. Donc, associons-nous pour créer cette entreprise-là et pouvoir répondre à ces besoins-là, en étant totalement adossé sur la partie logistique, infrastructure et services du groupe Itantia.
Vous avez cité Suez tout à l'heure comme client. Vos clients sont principalement des grands comptes. Comment vous expliquez qu'actuellement, cette réalité virtuelle, elle entre dans les entreprises via les grands comptes et non pas dans les PME ou les ETI ?
Oui, c'est une bonne remarque aussi parce que je pense que c'est l'adoption des nouvelles technologies. On va commencer déjà par les grands groupes parce que c'est là où il y a le plus de moyens financiers pour pouvoir déployer ces solutions-là. Et ensuite, effectivement, ça va faire des petits au fur et à mesure sur les ETI, puis ensuite sur les PME, TPE. Je pense sincèrement que toutes les entreprises peuvent être intéressées par ce type de solution parce qu'on est sur de la formation. Je cite d'autres exemples aussi. La formation, ça peut être sur les phobies. Phobie parce qu'on peut avoir le vertige, parce qu'on a peur de prendre l'avion, parce qu'on a peur de différentes choses. On a travaillé aussi avec un autre éditeur qui s'appelle Reverto. Je peux en parler aussi parce que c'est officiel. On a signé effectivement un contrat avec le ministère de la Justice pour équiper les prisons, pour lutter contre la récidive de violence conjugale. Donc oui, il y a énormément de cas possibles d'utilisation de ce type de solution.
Ça veut dire que ça va rentrer dans les PME, selon vous ?
J'en suis certain.
Ouais.
J'en suis certain.
C'est un domaine qui évolue, qui continue d'évoluer tout le temps. On parle beaucoup aujourd'hui de reconditionnement. Est-ce qu'on en est là encore, dans le matériel qui est utilisé ? Est-ce qu'on en est au reconditionnement ?
Non, pas encore. Pas encore. C'est une question qu'on se pose depuis maintenant quelques années déjà, puisque Itantia, est, historiquement aussi, a fait beaucoup de reconditionnement pour la partie télécom. Donc on s'est dit, ça peut être intéressant également pour les casques de réalité virtuelle. Mais je pense qu'il faut faire un parallèle en fait avec les smartphones en se disant, est-ce que vous auriez acheté un iPhone de reconditionné il y a 10 ans ? Non, certainement pas. Aujourd'hui, c'est naturel. Voilà. Donc nous, notre pari, c'est de dire, en fait, les casques de réalité virtuelle, en fait, ont très peu d'antériorité. On remonte à 2017-2018. Il ne faut pas oublier que c'est qu'en 2014 que Facebook a racheté ce prototype qui, pour 2 milliards de dollars simplement. C'était déjà en fait un pari sur l'avenir en se disant effectivement on va développer ce type de produit. Donc pour moi, le reconditionné, ce n'est pas encore d'actualité. Ce sera peut-être dans quelques années. Et après, la deuxième interrogation, c'est de dire comment les constructeurs vont pouvoir réagir, parce qu'il y a un operating system dans les casques. Est-ce qu'ils ne vont pas bloquer ce casque-là ou l'operating system pour les anciens casques? Donc c'est une vraie question pour l'avenir.
Vous avez commencé tout seul, vous êtes aujourd'hui 6, vous serez bientôt 7, lundi prochain, je crois que vous serez une dizaine à partir du mois de septembre. Vous travaillez avec des clients français, beaucoup à l'étranger. L'objectif, c'est demain d'aller à l'étranger directement. Alors, à la fois à la recherche d'éditeurs et aussi à la recherche de clients.
Exactement. Je pense qu'on a développé un vrai savoir-faire sur le marché français, une vraie reconnaissance à la fois par les marques comme Pico, comme Meta, comme HTC Vive ou comme Varjo ou comme d'autres. Je pense qu'on a une vraie compétence et un vrai savoir-faire que l'on a développé depuis ces dernières années et qui sera assez... Alors, pas dire facilement, parce qu'il n'y a rien de facile dans le business, c'est clair. Mais je pense qu'on aura cette capacité à pouvoir dupliquer ce modèle-là dans les autres pays européens.
Vous avez déménagé il y a quelques mois. Là, vous étiez d'abord chez WeForge. Oui. Vous avez désormais des locaux de 160 mètres carrés. Vous avez démarré chez WeForge. Ça a été un booster pour vous?
Oui. Je recommande vraiment ce type de solution à tous les entrepreneurs, parce que on arrive dans une structure comme WeForge, c'est bête à dire, mais il y a déjà le wifi, il y a l'électricité, il y a une cafétéria, il y a un bureau, il y a des chaises, il y a des écrans, enfin tout est là en fait pour faciliter la vie au quotidien en fait de l'entrepreneur. Et puis ensuite on va embaucher notre premier collaborateur, notre deuxième collaborateur, on va bouger de bureau au sein de chez WeForge, on va passer d'un plateau ouvert à un bureau plutôt fermé, et jusqu'à ce qu'effectivement on atteigne une certaine limite, parce qu'on est arrivé à 6 personnes dans un bureau effectivement qui était pas très grand, hein, 20 mètres carrés peut-être. Et là on s'est dit c'est plus possible, il faut absolument, maintenant il faut qu'on bouge. Voilà, et c'est comme ça qu'on a pris nos vrais locaux, nos locaux d'aujourd'hui.
Les objectifs à court terme, à moyen terme pour Mats Digital?
Objectif court, moyen, long terme, continuer à structurer l'entreprise en termes de ressources humaines, puisqu'on est sur une croissance très forte. C'est pour ça que, effectivement, vous avez raison, on sera, je pense, qu'une dizaine de personnes d'ici la fin du premier semestre, on sera une dizaine de personnes.
Vous pouvez chiffrer ou pas la croissance très forte?
Oui, je peux en parler. En 2022, on a fait 1,3 million de chiffre d'affaires. Mmh. En 2023, on a fait 3 millions. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut les porter. Il faut avoir aussi des gens qui soient capables de nous accompagner au quotidien aussi pour pouvoir supporter cette croissance-là. Donc, notre objectif en fait, pour 2024, c'est de passer la barre des 4 millions d'euros et de continuer une croissance comme cela.
Stéphane Courgeon, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de vous exprimer sur notre antenne. Président de Mats Digital à Angers, donc fournisseur de solutions et services de réalité virtuelle et ou augmentée à destination des professionnels. Il y a un site internet pour se renseigner, www.mats-digital.fr. Merci à vous. On reste dans l'actualité économique de l'Anjou. Quelques informations en bref avec vous Olivier. On commence par des nouvelles de Comerso.
Oui, spécialiste de la gestion des invendus et de l'anti-gaspi dans le secteur du commerce alimentaire, Comerso, qui est basé à Angers et à Bordeaux, se développe aussi dans celui de la santé. L'entreprise accompagne désormais le laboratoire Galia, qui est spécialisé dans le lait infantile, qui souhaitait mettre en place un système de valorisation de ses produits invendus, en particulier auprès de ses clients du réseau pharmaceutique. Comerso intervient donc sur la gestion des dons de revalorisation des laits infantiles en pharmacie, avec l'objectif de collecter environ 7000 boîtes de lait infantile par an qui seront reversées à des associations.
Brangeon continue aussi de faire l'actualité.
Oui, tout à fait. Le groupe Brangeon, basé à La Pommeraye, vient d'intégrer dans sa flotte le premier camion électrique pour le ramasser des bacs des ménages et des professionnels. Début 2023, il avait déjà fait l'acquisition d'un camion de collecte hybride et d'un porteur électrique sur son site d'Angers. Le nouveau véhicule de collecte, qui ne produit aucune émission de gaz à effet de serre pendant son utilisation, permet une réduction qui va jusqu'à 80% des émissions de COD en comparaison avec un véhicule diesel. Le groupe dispose de 116 véhicules de collecte. Il y en a 26 qui roulent au biodiesel. Il s'est fixé pour objectif que 20% de sa flotte de véhicules fonctionne aux énergies alternatives d'ici 2025.
Et puis on termine brièvement par un gros chantier sur la levée de l'Authion.
Oui, la grande levée de l'Authion qui constitue avec la levée de Bellepoule la première ligne de défense du Val d'Authion contre les inondations de la Loire. Elle protège plus de 60 000 habitants. Elle va être renforcée pour un investissement de 6,5 millions d'euros. Les travaux qui seront réalisés sur le territoire de la commune de Gênes-Val-de-Loire se dérouleront de février à novembre 2024.
Merci beaucoup Olivier. On poursuit notre magazine avec les débats de l'écho.
Les débats de l'écho, RCF Anjou.